sera, on la sera.
Nous sommes là, nous serons là. On l'a été pour contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et on le sera contre le projet d'Amazon. Merci.
Du fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde.
Autre monde, autre monde, autre zone. Un écho des luttes à retrouver tous les deux mois sur Jet FM.
On n'avait pas la CBA papa, SDF chômeur ouvrier, paysan immigré.
Une émission proposée par Attaque 44 pour mieux comprendre les luttes du local à l'international.
C'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien.
Autre monde,
autre monde.
Depuis quelques mois, de nombreux pays d'Europe sont secoués par des manifestations de grande ampleur. Le Royaume-Uni, la Belgique, la Grèce, l'Espagne, l'Allemagne et la France. Comment répondre aux besoins sociaux et écologiques qui résonnent clairement dans les pays d'Europe ? Face à une économie mondialisée qui s'impose très autoritairement, au-delà de la diversité des contextes sociaux et des réponses apportées par les gouvernants, peut-être peut-on imaginer des luttes sociales internationales en réponse aux défis sociaux et écologiques. La première émission de la série Autre Monde, Autres Ondes était consacrée à l'Université européenne des mouvements sociaux et solidaires en 2023 en Allemagne, basée sur des témoignages et analyses des luttes européennes. Pour poursuivre cette thématique de lutte, nous vous proposons aujourd'hui un écho de lutte internationale, toujours basé sur des témoignages et des analyses issues des réseaux d'attaque, associations altermondialistes, qui disposent d'un réseau de comités locaux, en France bien sûr, d'un réseau européen et d'un réseau international. Les personnes que vous allez entendre dans cette émission peuvent, selon le cas, participer et ou coordonner la participation d'attaque lors des différentes réunions internationales. Cette émission vous est proposée par un groupe qui se réunit pour discuter des thèmes d'actualité et construire des émissions que nous diffusons sur l'antenne de Jet FM. Merci Jet de nous accueillir. Lors des émissions passées, vous avez pu entendre les voix de Aurélie, Étienne, Pierre, Manon ou moi, Agnès. Alors vous êtes bien là, détendu du coin de l'oreille. Ambiance, Florence, musée à ciel ouvert, avec au moins ses 1001 statues et ses non moins nombreuses madones au Jésus, le fleuve Arno et les glaces italiennes. À San Gimignano, à 6 km de Florence, il y a les meilleures glaces du monde. Si, si, j'ai goûté et je vous donne le tuyau juste entre amis. Maintenant, on écoute trois entretiens enregistrés lors du Forum social de Florence de novembre 2022. Vous entendrez Maria Francesca, Attaque Italie, Yann Attaque France et Sébastien qui représente le collectif Altersummit de Belgique. Bonne écoute, même si parfois le son est un peu inégal et qu'il peut y avoir des bruits de fond selon les lieux d'enregistrement.
Je suis Maria Francesca de Naples, qui est dans le sud d'Italie. Donc j'ai commencé mon engagement politique de communs, c'est-à-dire des espaces urbains qu'on a libérés pour les restituer à la ville, c'est-à-dire surtout notamment aux gens qui n'ont pas des possibilités économiques pour utiliser des autres champs. Moi, je suis activiste à l'asilo, ex-asilo Filangeri, qui est un espace qui avait été occupé par des artistes qui se plaignaient pour les conditions de travail des artistes, mais aussi pour le manque d'espaces culturels à Naples. Et voilà, en Italie, il y a un gros débat sur les communs, qu'est-ce que c'est les communs, notamment à partir de l'eau publique sur laquelle Attaque a été un des piliers en fait, de la campagne, mais aussi sur les espaces publics, donc pour les rendre accessibles. Et c'est là que j'ai connu Attaque, dans ma ville, à Naples, parce que Attaque Naples a fait un gros débat à l'intérieur de notre plateforme municipaliste qui s'appelle Masse Critique. Mais c'est une plateforme municipaliste qui est née en 2015 pour proposer un agenda politique à la ville. Donc c'était pas des candidats qui allaient se candidater pour la ville, mais des mouvements sociaux qui avaient bâti des réseaux pour proposer un agenda pour la ville. À poser le problème de la dette publique et des ressources publiques qui se connectaient en fait très bien avec les enjeux des espaces publics parce que finalement c'est des ressources qu'on donne à la ville, à des usages sociaux. Et cette plateforme municipaliste a dit que comme la dette c'est publique, ça doit être discuté en public. Et c'est là qu'à travers d'attaques, j'ai commencé à apprendre et comprendre les enjeux des questions financières et de la dette et surtout les enjeux politiques.
Bonjour Agnès, je m'appelle Yann, j'ai 35 ans, je suis né en Uruguay et je suis arrivé en France à l'âge de 7 ans. Je pense que, en partie, ça a joué dans mon engagement. Je viens d'une famille qui, aussi bien chez mes arrière-grands-parents et parents, étaient actifs, étaient militants et en tout cas étaient politisés. Bon, mon histoire fait que j'ai grandi dans des quartiers pauvres en Amérique latine. J'étais à côté de bidonville, puis je suis arrivé en France et j'ai eu accès à certains privilèges qui sont des privilèges un peu du Nord. Et c'est vrai que c'est toujours un peu difficile de voir les gens qu'on a un peu laissé derrière, n'ont pas ces chances de faire des études supérieures, d'être aidés, d'être accompagnés, d'avoir une éducation de qualité, une santé de qualité, chose qu'on est en train aussi de perdre en France. Et ça explique aussi pour moi, l'internationalisme, l'international est aussi important. En fait, j'ai rejoint ATTAC il y a déjà deux ans. Et donc, je me suis engagé dans la construction, en fait, une tentative de construction d'une solidarité internationale, bien sûr à égalité avec les membres qui luttent un peu ailleurs. Et dans ce cadre-là, je me suis engagé dans énormément de structures, de réseaux et d'actions qui cherchent, entre autres, à réduire les inégalités entre le Nord et le Sud, qui cherchent à être solidaire avec contre les méfaits du Nord, des multinationales du Nord dans le Sud. Par exemple, j'étais pas mal engagé sur la question de Total. Donc, on était beaucoup en contact avec des luttes locales en Argentine, en Ouganda, en Birmanie aussi, au Brésil. Mais bon, heureusement qu'à force de lutte au Brésil et en Birmanie, on a pu repousser Total et des projets de mort qu'ils cherchaient à porter. On est aussi en solidarité sur les questions de l'accaparation de l'eau, de l'accaparation de la terre, et on est aussi dans des réseaux qui essaient de construire des luttes au niveau international. Donc on est engagé sur les traités contre les traités de libre-échange, on est en vrai engagé contre la néolibéralisation du monde, contre la recherche du profit à tout prix au détriment de la planète et bien sûr de l'être humain. Le forum social a encore une vie. Même si elle n'est plus ce qu'elle était. Donc, il y a une édition qui se prépare au Népal. Et de ce réseau-là, de ces anciens réseaux-là, viennent d'autres réseaux, sont créés d'autres réseaux, comme Global Dialogue pour une alternative systémique, qui, entre autres, lie des gens du Canada, d'Europe, d'Asie, et d'Amérique latine et un peu d'Afrique, et qui essaie de, effectivement, montrer un peu comment on peut créer une alternative à ce monde et comment toutes les formes de domination sont liées les unes aux autres et comment on peut sortir une alternative par le haut, donc une alternative féministe, écologiste, sociale, décoloniale. Voilà.
Je m'appelle Sébastien Franco, je suis coordinateur du réseau Alter Summit, qui est un réseau d'organisations qui s'est structuré pour s'opposer aux politiques néolibérales de l'Union européenne. Et ça, il y a ici environ 10 ans de cela à Florence en 2012, où il y avait eu une rencontre également pour les 10 ans du Forum social. Donc moi, j'ai eu la chance d'être à Florence en 2002. J'étais tout jeune à l'époque et bon, c'était un moment quand même fondateur pour moi et pour beaucoup, je pense, d'entre nous. Une mobilisation énorme, un cadre aussi fantastique, la forteresse de, de Florence, avec une présence de personnes du monde entier. Et donc ça a été important pour moi, toute cette mobilisation altermondialiste au tournant des années 2000. Et donc depuis lors, ben, voilà, j'ai continué mon engagement, puis c'est devenu quelque chose de professionnel. Donc je suis aussi ici pour des raisons professionnelles, pour... voilà, puisque nous, l'objectif est l'objectif d'Alter Summit et l'objectif en général de mon travail, c'est de voir jusqu'à quel point les réseaux peuvent jouer, peuvent se constituer au niveau international pour s'opposer collectivement aux forces qui elles aussi sont organisées au niveau international et global. Et donc c'est, voilà, depuis un certain moment, les réunions européennes notamment ronronnent un peu, sont un peu en manque d'initiatives, d'idées, etc. Et donc, voilà, j'ai eu l'occasion d'aller cet été, en août 2022, en Allemagne, avec peu d'attentes, mais étonnamment, il y a eu de bonnes discussions, des nouvelles générations qui commencent à s'intéresser à la question, à prendre de l'espace dans ces réunions internationales. Et donc, je pense que là réside la clé d'aller de l'avant, et c'est ça qui donne l'espoir pour le futur, à nous, plus anciens, de laisser la place à ces forces, puisque de là viennent les nouvelles idées. Je pense que la situation, dans le monde dans lequel on vit, dans les difficultés que vit le monde, la situation européenne est particulière, et donc la crise, notamment à gauche, y est particulièrement importante. Moi, je viens d'Amérique latine et voilà, en Amérique latine, il y a eu ces 30 dernières années beaucoup d'expériences avec des réussites, des échecs et fondamentalement des expériences qui n'ont pas réussi nécessairement à changer le cours des choses, mais au moins il y a eu des tentatives, il y a eu des prises de pouvoir, il y a eu toutes sortes de choses qu'ici en Europe, on ne connaît pas depuis longtemps, à part quelques... l'expérience grecque qui a rapidement tourné court, etc. Et donc je pense que là, il y a une réalité européenne à laquelle la gauche européenne doit particulièrement s'atteler à résoudre ses difficultés historiques. Et elles viennent sans doute de la crise du mouvement communiste qui a été évidemment au niveau de l'Europe centrale, du syndicalisme, et qui aujourd'hui semble une crise qui continue de s'approfondir et qui ne semble pas avoir de limite. Et donc une question qui moi m'importe, c'est de voir comment on sort de cette spirale négative pour s'inscrire dans quelque chose de positif et d'une dynamique croissante. Je pense qu'on l'a abordé un peu ces jours-ci, mais c'est quelque chose que aussi les progressistes européens doivent repenser, la place de l'Europe dans le monde. On a vu beaucoup d'interpellations de gens d'Afrique ou d'Asie disant, voilà, vous avez une responsabilité aussi face à la situation dans laquelle nous vivons. Et avant de donner nos opinions sur... les processus ici et là avec les échecs ou les difficultés, on a nous une responsabilité d'arrêter nos gouvernements, d'imposer au monde, au reste du monde, des politiques antisociales, écocides et répressives. Donc on doit balayer devant notre porte, on doit s'atteler à réfléchir à des nouvelles formes, je pense, d'organisation, ou en tout cas d'articulation entre les organisations. Voilà.
Alors voilà, maintenant vous êtes bien dans l'ambiance, prête et prêt pour écouter Christophe Aguiton qui, lors d'un entretien en deux parties, va nous conter une histoire des mouvements sociaux, pourquoi ils naissent, comment ils évoluent et se transforment du début du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui.
Moi je m'appelle Christophe Aguiton, je suis un militant syndical et associatif. Et j'étais un des fondateurs d'Attac il y a maintenant 25 ans, ça nous rajeunit pas, de même que sur le plan syndical du syndicat Sud PTT, qui était à l'origine avec d'autres de la création de ce qui s'appelle Solidaire, une des confédérations très actives dans le mouvement pour les retraites. Pour ce qui concerne l'altermondialisme, c'est disons la phase actuelle de l'internationalisme. Alors, c'est pour donner les choses un petit peu en perspective avec un peu de recul. L'internationalisme est au cœur du mouvement ouvrier, de la gauche, des mouvements sociaux. On a des formules que tout le monde connaît, même si elles sont en partie inexactes, comme les travailleurs n'ont pas de patrie. L'idée, c'est que c'est les travailleurs qui doivent eux-mêmes organiser leur solidarité et leurs liens contre les bourgeoisies, les classes dominantes, les États, chaque fois qu'ils répriment et qu'ils favorisent le développement du capitalisme plus que les droits sociaux. Donc ça, c'est vraiment au cœur, depuis le 19e siècle, du mouvement ouvrier, de la gauche, enfin bref, du monde auquel on appartient. Après, les formes précises que prend cet internationalisme changent complètement d'une période à une autre. La première chose qui est peut-être déterminante, c'est de savoir si on est dans une phase de mondialisation ou non. Quand Marx, par exemple, va participer avec Bakounine et beaucoup d'autres à la création de l'Association internationale des travailleurs, ce qu'on va appeler la première internationale, on est encore dans une phase de mondialisation qui est celle du milieu du 19e siècle jusqu'à la fin du 19e siècle, qui se produit sous l'égide de la Grande-Bretagne, qui est la puissance dominante, l'équivalent des États-Unis aujourd'hui pour le 20e et le 21e siècle, en tout cas ce début de 21e siècle. Et la façon dont ils conçoivent l'Association internationale des travailleurs, cette première internationale, c'est vraiment une unité quasiment organique, à la fois des partis, des syndicats, des associations, même des mutuelles, mais aussi un mélange total, qu'on soit français, allemand, belge ou britannique, ça n'a pas d'importance. On vote tous ensemble sur les grands événements mondiaux. À partir de la fin du 19e et des premières fractures dans la mondialisation qui commencent dès les années 1880, on va avoir une deuxième phase de l'internationalisme qui sera très très différente, puisque là c'est un internationalisme de partis qui sont séparés les uns des autres. On va créer des fédérations dans lesquelles chacun des partis politiques, puisque la deuxième internationale est une internationale de partis, plus tard se mettront en place des internationales syndicales, voire même paysannes, ça c'est encore beaucoup beaucoup plus tard, mais ces internationales nationales de partis ou de syndicats sont des fédérations très faibles, en fait, très lâches. Elles ne décident rien vraiment au-dessus des partis. Il y a très peu de prise de position globale, c'est simplement des lieux de rencontre, d'échanges, de discussions, mais on ne va pas au-delà de ça parce qu'en fait, le cadre d'action priorisé par le mouvement ouvrier, qu'il soit syndical ou politique, c'est les États-nations. Et en effet, quand la mondialisation, par exemple, a quasi disparu autour de la Deuxième Guerre mondiale et après la Deuxième Guerre mondiale, les bourgeoisies sont nationales, il n'existe pas, par exemple, d'entreprises multinationales. La première qui émerge dans les années 1960, hein, donc c'est beaucoup, beaucoup plus tard, ça va être IBM, qui est la première entreprise transnationale de l'époque. Alors, l'altermondialisme, donc, il émerge, en fait, dans les années 90, hein, après une transformation de la nature de beaucoup de mouvements sociaux. On va voir apparaître des mouvements sociaux qui ne sont pas simplement d'organisations syndicales traditionnelles où on défend les travailleurs de tel secteur industriel ou les paysans de façon un peu corporative. Les mouvements qui se créent dans les années 90, comme la Via Campesina, cette internationale paysanne, va tout de suite poser des problèmes de société un peu globaux. La lutte contre les transformations génétiques, ce qu'on appelle les OGM pour ce qui est des semences, l'idée d'une internationalisme qui prend aussi des aspects d'action concrète d'un pays à l'autre. Bon. Et puis, on va voir apparaître toute une série de grandes mobilisations. Celle de Seattle en 1999 va être déterminante. La création de nouveaux mouvements comme ATTAC, ça c'est 1998. Et à partir de 2001, des forums sociaux mondiaux. Alors, pourquoi tout ça change? Tout simplement parce qu'il y a des besoins nouveaux qui émergent. Quand on a des grandes entreprises multinationales qui vont faire travailler des femmes, des enfants, voire des prisonniers au Pakistan, au Bangladesh, au Vietnam ou en Chine, il est très difficile pour les travailleurs de ces pays-là de se battre seuls parce qu'ils ont face à eux des grandes multinationales dont les états-majors sont souvent basés dans les pays les plus riches et pas du tout chez eux. Et donc très vite, la nécessité de faire des liens directs entre les ONG ou les mouvements sociaux qui au nord ou au Japon, enfin au nord dans le monde occidental ou au Japon, sont prêts à mener des campagnes contre des multinationales qui maltraitent leurs travailleurs, qui exploitent les enfants, les prisonniers ou d'autres, tout ça amène à la création d'alliances avec des syndicats locaux et donc à des liens qui ne sont plus du tout les mêmes, puisque c'est des liens transnationaux, C'est des liens qui sont aussi entre organisations de nature différente, des syndicats avec des ONG ou des mouvements sociaux qui ne sont pas de nature syndicale. Et donc, on va avoir besoin pour créer tout ça, d'avoir un lieu où on va pouvoir converger ensemble et créer ces campagnes communes. On voit bien que le changement de climat, par exemple, ça ne peut pas se résoudre pays par pays. On voit bien que les questions de guerre et d'insécurité sont aussi souvent des questions globales, les migrations tout autant. Bref, les forums sociaux vont être d'une certaine façon le chaudron dans lequel vont se retrouver tous ces mouvements et dans lequel va pouvoir se créer des campagnes communes, des actions communes. La plus significative a été l'énorme campagne contre la guerre en Irak, ça c'était donc en 2003, qui a abouti au fait qu'on a connu pour la première fois la plus grosse manifestation mondiale que le monde ait jamais connue, puisqu'on a eu des millions et des millions de manifestants du Japon aux États-Unis, en passant par l'Europe, l'Afrique, l'Amérique latine, et l'essentiel des pays d'Asie. Donc ça, c'est des choses concrètes qui ont été faites grâce aux forums sociaux et qui étaient vraiment le cœur de l'ADN, de la raison d'être des forums sociaux qui sont nés au début de la décennie 2000.
Petite pause musicale avant la deuxième partie de Christophe. Je me suis dit qu'il fallait des chants de lutte. J'ai un peu choisi la facilité, l'album Motivé de Zebda, une perle, mais après, il a quand même fallu choisir. Et ben, j'ai décidé que ce serait Bandiera Rossa, qui signifie drapeau rouge. On y parle du communisme, mais sans les soviets, de liberté et de révolution. Très dynamique. Et on enchaînera aussitôt avec la deuxième partie de Christophe.
Il faut ajouter, c'est que ces forums sociaux étaient d'autant plus importants qu'à l'époque, on est vraiment là dans les années 2000, enfin c'est au début des années 2000, la mondialisation néolibérale n'est pas qu'une mondialisation économique, c'est aussi une mondialisation institutionnelle, voire politique. On a des outils qui sont vraiment les outils de création ce dont la mondialisation a besoin. Le meilleur exemple, c'est l'Organisation mondiale du commerce. Hein. Auparavant, ça n'existait pas. C'est des accords bilatéraux entre pays hein, pour échanger des biens ou des services. Donc, on va créer une organisation spécifique dédiée à cet élargissement, d'une certaine façon, des accords de libre-échange au niveau global, au niveau mondial, c'est l'OMC. Le FMI et la Banque mondiale vont prendre un rôle très important pour discipliner, d'une certaine façon, les questions financières. Hein. On a, dans les années 70, des monnaies qui sont généralement non convertibles ou peu convertibles. Hein, bon, ce que va créer le FMI et la Banque mondiale, c'est une ouverture générale des marchés financiers, ce qui veut dire que quasiment toutes les monnaies, pas toutes, mais l'essentiel des monnaies du monde vont devenir convertibles. Mais donc, il faut que les gouvernements respectent un certain nombre de règles. C'est ce qu'on va appeler le consensus de Washington. Et au niveau politique, on va avoir le G7, qui est la rencontre des grands de ce monde, hein, nord-américain, européen plus japonais, qui vont être d'une certaine façon le directoire où on va discuter des grandes affaires internationales sur le plan géopolitique. Bon. Tout ça va permettre au mouvement intermondialiste de se concentrer aussi face et contre ces institutions. Hein, Seattle, c'est face à l'OMC, Gênes, ça va être face au G7, Évian, pour nous, les Français, un peu plus tard, ça va être aussi sur le G7, etc. etc. Bon. les coûts que la mondialisation va opérer pour les classes moyennes et les classes ouvrières, hein, la désindustrialisation, la perte de certaines façons de repères de la classe moyenne qui va aboutir à cette montée de populisme de droite. Bon, Donald Trump en est l'exemple meilleur, mais on voit chez nous avec Le Pen ou Zemmour des phénomènes comparables. On le voit avec Orban en Hongrie, on le voit en Inde avec Modi, au Brésil avec Bolsonaro. Donc c'est vraiment un phénomène totalement mondial. Et tout ça va commencer à créer des fissures de plus en plus importantes entre les différents États. Le pire étant quand Donald Trump, d'une certaine façon, s'oppose à l'Europe, passe des accords, on tente de passer des accords avec la Russie, et va vider de substance toutes les institutions internationales qui étaient si importantes au début des années 2000. Le G7 est un lieu où on s'engueule, le FMI et la Banque mondiale ne font plus rien, l'OMC est totalement paralysée, les Nations unies ne servent pas à grand-chose, alors que dans les années 90, il y avait des très grandes conférences, Pékin, Beijing pour les femmes, Copenhague pour les questions sociales, etc. etc. Tout ça va s'arrêter, hein, on va avoir une situation de gel et de fracture géopolitique très très profonde, bah, qu'on voit aujourd'hui avec la guerre en Ukraine, mais qu'on peut voir dans toute une série d'autres occasions. Et dans ces conditions-là, les forums sociaux vont perdre une partie de leur substance parce qu'une des raisons de leur force, c'était leur capacité à s'opposer à ces institutions qui vont perdre, comme je viens de l'expliquer, l'essentiel de leurs fonctions. Alors, depuis 2 ou 3 ans, les choses sont en train de changer. Elles sont en train de changer parce qu'il y a des défis nouveaux que le monde entier a affrontés et qui nécessite d'une certaine façon des réflexions communes des mouvements à l'échelle planétaire, européenne pour nous bien sûr, mais aussi mondiale. Alors quels sont ces défis? Le premier, c'était le Covid. Hein. C'est quand même la première fois qu'à cette échelle, hein, on connaissait une pandémie de cette importance, hein, qui a conduit à des confinements dans tous les pays du monde, et essayer de voir comment répondre à ça a nécessité beaucoup de contacts internationaux. Deuxième chose qui nous a aussi obligés à réfléchir à des reprises de contacts plus intenses entre les différents mouvements des différents pays, c'est la montée de l'inflation, le coût de la vie, tout qui est lié à cette inflation qui n'est pas liée qu'à la guerre en Ukraine, hein, dont on voit bien les aspects structurels aujourd'hui, mais qui pose toute une série de problèmes et qui oblige aussi à une réflexion commune. Et puis le monde n'a jamais connu de période de paix absolue, hein, il y a toujours eu des guerres, guerre du Vietnam et beaucoup d'autres, hein, bon, mais là connaît des affrontements militaires très très importants, hein, l'Ukraine bien évidemment, peut-être demain Taïwan, les choses se détériorent là-bas, qui amène aussi à avoir des réflexions pour ce qui nous concerne, nous, Européens, en particulier sur la question de l'Ukraine, avec des mouvements sociaux qui n'ont pas forcément les mêmes orientations. Tout le monde condamne évidemment l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais après, certains, en particulier en France, en partie en Grande-Bretagne, soutiennent très nettement les Ukrainiens, y compris dans leur résistance armée, d'autres ont des positions plus pacifiques. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est d'en discuter et de trouver les lieux pour en discuter. C'est pour ça que se sont mis en place des universités européennes de mouvements sociaux, c'était Mönchengladbach l'an dernier, c'est pour ça que les Italiens ont lancé l'initiative à Florence de faire Florence plus 20, c'est-à-dire une conférence qui permettait à tous ces mouvements de se rencontrer, je ne dis pas pour la première fois, mais enfin de reprendre disons, des liens un peu réguliers, et maintenant on est en train de travailler à la possibilité d'avoir des actions communes, ou en tout cas de nouvelles rencontres au niveau européen. Est-ce qu'on peut le faire sur la question de la COP à Abu Dhabi, qui est un vrai scandale? Ce n'est pas certain. Aujourd'hui, on est plutôt sur la piste de réfléchir à une grosse conférence et des réflexions de mouvements sociaux en amont des élections européennes de 2024, hein, donc au printemps prochain, dans 1 an, mais tout ça n'est pas encore décidé. Voilà en gros un peu le panorama tel qu'on peut le discuter, mais avec toute une série de questions nouvelles pour nous. Hein, bon, la question du changement climatique est évidemment déterminante. La question de la biodiversité et de son effondrement fait peser des risques considérables à la planète et à l'humanité. Les migrations, qui sont pour beaucoup liées aux questions climatiques, sont aussi une question majeure dont on voit à quel point elles secouent nos sociétés. Bref, il y a toute une série de terrains sur lesquels il faut absolument que les mouvements sociaux soient capables de reprendre les liens d'échange, d'amitié et surtout d'action commune qui nous manquent terriblement aujourd'hui.
Nous sommes maintenant à Budapest pour une réunion des attaques d'Europe. Alors, toujours dans le domaine culinaire, quand vous irez à Budapest, je vous conseille fortement les Kürtőskalák, des gâteaux à se pâmer. Si, j'ai goûté. Maintenant, ambiance, Fernanda et Alberto, Espagne, que je remercie ainsi que nos amis italiens de s'exprimer en français. Puis Christine, Lena, Hugo, Marcus, Vera et Mathias. Norvège, Autriche, Allemagne et Hongrie. Et la traduction sera gentiment assurée par Jean-François.
Moi, je suis Fernanda. Je viens d'Attaque Spain aussi. Je viens des îles Canaries. Ce n'est pas la première fois que nous rencontrons. Et c'est un peu différent. Moi, je crois que nous avons de la force un peu cachée. Et je crois que c'est très, très important. Et oui, c'est bon de nous rencontrer avec le Zoom, avec online, télématique, tout ça. Mais en personne, les choses s'y comprennent très, très bien. Nous avons des sensibilités pas très différentes, mais un peu différentes. Et en personne, il n'y a pas de problème. Nous sommes tous à TAC. Bah, mais nous avons besoin de nous voir en personne, de nous regarder, de nous sourire et de partager. Merci beaucoup.
Oui, je suis Alberto, je viens d'Attaque Espagne. Et bon, on a ici à Budapest pour avoir le meeting de la réseau européen d'attaque. Bon, dans le futur, c'est pas très optimiste. Je dois dire la vérité pour ma part, mais bon, on est en train de voir la manière de solutionner les choses. Changer la relation de force, la relation de forces entre les pouvoirs dominés, les pouvoirs qui dominent, et surtout les entreprises multinationales qui ont un très grand pouvoir sur des gouvernements. Et ils sont en train d'attaquer toujours les droits des travailleurs. Et bon, avec aussi, on est en train de travailler sur une solution pour voir des choses avec les changements climatiques, la crise climatique et tout ça.
Attack stands out. It's about the globalness of it. Norway is a very privileged, very rich country, so it's looking at the world from a very global perspective.
Travailler sur l'égalité de façon globale, et comme la Norvège est un pays riche, regarder de façon globale l'économie.
Salut, I'm Lena, I'm from Attac Austria, and I'm really enjoying our Budapest and Attac meeting.
Moi, je suis Léna pour Attac Autriche. Je suis très heureuse d'être ici. J'apprécie beaucoup la rencontre des attaques ici à Budapest.
And in Austria, we currently have three main topics you're working on. So one is our global trade issues, like the Mercosur, which will most probably be accepted quite soon in July.
On a trois combats principaux. Le premier, c'est sur les marchés et particulièrement sur la question du Mercosur,
donc commerce international.
And the main issue with Mercosur is that we say more trade, especially in the area of beef trade and also car industry pushed
trade. Sur la question du commerce du bœuf, sur la question de l'industrie des voitures.
It is adding to the global climate crisis and also deteriorating the social problems in the country.
C'est lié aux questions écologiques et évidemment aux questions sociales.
And then one other field is taxes, and especially tax on wealth and taxes for corporations, so have more global justice.
Le deuxième combat, c'est sur la justice globale, donc sur la question de la justice fiscale.
And the final topic where we are working on the biggest campaign currently is energy justice.
Le dernier sujet, c'est la justice énergétique.
I'm here in Budapest in some meeting of the European Attack Network because I'm now more than 80 years old and I'm still living with the hopes to change the world a little bit better to a just world. And with a lot of people, young people, middle-aged people, older people, together, I think it's possible.
Alors, je suis ici à Budapest pour cette réunion des attaques d'Europe parce que j'ai aujourd'hui 80 ans et je pense que le monde est à changer toujours et c'est en le faisant collectivement, en se réunissant à plusieurs, qu'on peut faire des choses.
The same question?
The same question, yeah. I'm here because I think the upcoming nationalism in the world is a problem. And one solution could be to knowing each other, to fight against these things together. And it's very important that we have different views, but the same goals to make the world a better place for all people. Yeah, and I think the attack network could be one place where it can happen.
C'est important de se réunir à plusieurs, même si on n'a pas les mêmes points de vue, d'avoir des buts communs. Et c'est en échangeant qu'on peut faire un meilleur monde. Et dans le cadre des attaques d'Europe, ça me paraît être le bon cadre.
We were very happy to host all the European attack chapters, and it was a fantastic occasion to meet in person after the very long and very tiring Skype and Zoom events during the pandemic. And so this gave us a very good feeling, and all the attacks were communicating and were working together in a very friendly mood.
On est très heureux après toutes ces années de pandémie et de réunions sur Zoom et sur Skype, etc., de s'être retrouvés avec tous les attaques d'Europe ensemble pour en présentiel. Et on est très heureux de ce qui s'est d'avoir pu décider des choses ensemble et échanger ensemble en présentiel. Ouais.
Thank you. And the same question for you.
I can express also my gratitude and happiness that we could host all the chapters of the European Attack Network here in Budapest and meet nice people, friendly comrades who can join their struggle together. Of course, all these events, you know, have some problems or kind of mistakes, but all is surpassed and we solve all problems. And hopefully, in the next coming months and the year, we can come together again.
On a été très heureux d'organiser cette rencontre tous ensemble. Ça n'a pas été facile, il a fallu surmonter des problèmes, des erreurs, mais on a réussi à tout surmonter et on est très heureux donc qu'on ait réussi. Et aussi, il est très heureux également d'avoir pu rencontrer des personnes qui sont à la fois des collègues, mais aussi enfin, des personnes avec qui on lutte ensemble, mais aussi des amis. Et c'était très agréable.
Rendez-vous maintenant avec Isabelle et Zeno qui vont nous parler du réseau CADTM, Comité pour l'abolition de la dette du tiers-monde, fondé en Belgique en 1990 et appelé aujourd'hui Comité pour l'abolition des dettes illégitimes. Ce réseau international est composé de membres et de comités locaux basés en Europe, en Afrique, en Amérique latine et en Asie. Petite coupure musicale à la fin de l'entretien. A Lotta Continua, c'est la chanson, toujours avec les motivés, en version acoustique et live.
Je m'appelle Isabelle Likuka et je suis actuellement dans le comité local Attaque Land. Mais j'étais auparavant, j'avais créé Attaque Togo et puis travailler avec l'Attaque en République démocratique du Congo, et ensuite créer Attaque au Congo-Brazzaville, sachant que dans ces pays-là, on n'a pas forcément pu appeler l'association Attaque, et qu'en République démocratique du Congo, surtout, et puis dans les autres pays aussi, chaque fois Attaque est associée au CADTM, le Comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde, qui s'appelle aujourd'hui pour l'annulation des dettes illégitimes. qui œuvre avec ATTAC toujours en parallèle sur ces enjeux internationaux.
Je m'appelle Zeno et je fais partie du comité local 93 Sud, mais en vérité, je participe surtout à l'espace mobilisation internationale d'ATTAC avec Isabelle et d'autres. Depuis un an à peu près, je participe aussi à DET pour le climat, mouvement dont nous allons parler encore après. Et du coup, je laisse la parole à Isabelle.
Donc, du 9 au 15 octobre aura lieu à Marrakech le sommet du FMI, du Fonds monétaire international, contre lequel nous nous battons depuis, ATTAC se bat et le CADTM se bat depuis des dizaines d'années, puisque ce FMI a pour objectif de maintenir les pays endettés, donc en grande majorité les pays du Sud, puisque les pays du Nord sont très 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 endettés, mais eux, on ne leur réclame pas leurs dettes, contrairement à ceux du Sud, qui sont constamment pressés de la rembourser. Sauf que cette pression est maintenue justement en poussant ces pays-là à accepter des accords de libre-échange grâce à cette dette. Comme ils doivent payer leurs dettes en dollars, ils doivent absolument exporter leurs matières premières et leurs productions agricoles, qui sont d'ailleurs en général faites dans ces pays-là, par des multinationales européennes ou américaines ou chinoises aujourd'hui. Et donc, le but est de créer, de faire un contre-sommet, donc en grande partie à Marrakech, mais qui sera conditionné par les possibilités dans un pays comme le Maroc, où les associations de contestation ne sont pas les bienvenues et sont souvent traités de manière très ciblée, enfin sont très surveillés, donc la liberté d'action est très difficile. Mais du coup, il va falloir faire ce contre-sommet également dans le reste du monde au même moment, par les réseaux, par des actions dans les pays dans lesquels se trouveront les associations qui luttent contre les organismes qui luttent contre le FMI et la dette. Voilà.
Oui, il y a ce côté-là de ce contre-sommet qu'Isabelle vient de nous donner. Et il y a aussi le côté que je trouve vraiment important, c'est le CADTM et aussi nous un petit peu qui poussons, qui organiserons ce contre-sommet. Et ce ne sont pas des ONG qui sont financées par le gouvernement qui l'organise, et ça a des réels effets en termes de position qui est prise par un tel contre-sommet, et du coup aussi en termes du potentiel politique qu'un tel contre-sommet a. Évidemment, du potentiel politique si on a la position que nous, on a en tant qu'ATTAC France, en tant que CATTM, c'est-à-dire l'annulation des dettes illégitimes et le paiement des dettes historique. Et cette année, ce qui est particulier en ce qui concerne ce contre-sommet, c'est qu'il est juste avant la COP et cette conférence climatique onusienne, et de nouveau dans un pays où on ne peut pas vraiment se mobiliser, à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Et du coup, il y a tout un tas de gens, d'organisations qui vont aller à la COP, qui viennent aussi au contre-sommet. Du coup, il y a un vrai enjeu déjà de pousser des positions pendant ce contre-sommet pour qu'elles soient encore là pendant la COP. On a notamment eu ce petit accord sur un fonds des pertes et dommages. Et il y a déjà beaucoup d'ONG en fait, qui ont changé de position depuis, qui ont toujours défendu que ce doivent être les pollueurs qui payent, les pollueurs historiques pour ce fonds. Et maintenant, plein d'ONG disent que ce ne sont que les pollueurs actuels qui doivent contribuer à ce fonds et pas les pollueurs historiques. Du coup, ça sera vraiment un moment important pour nous de, pas seulement de défendre, mais de juste de continuer à avoir la même position que l'année passée.
Oui, et c'est ainsi justement qu'on justifie et qu'on réclame l'annulation de la dette, qu'on qualifie à la fois d'illégitime parce qu'elle a été faite par des dirigeants non élus par les populations, donc non représentatifs des populations qui aujourd'hui payent cette dette, par l'accaparement de leur territoire, par l'exportation de tous les gains qui seraient faits dans le pays, etc. Et deuxièmement, la dette historique des années de colonisation qui ont été maintenues par la dette après la décolonisation, qui doivent absolument être remboursées, ce qu'on appelle la dette écologique, toute la destruction environnementale qui a été faite et qui est irréparable ou irrécupérable par ces populations et qui doit absolument, aujourd'hui, il doit avoir absolument, depuis des années, il est promis 100 milliards par an, alors qu'il en faudrait 500 déjà, pour aider ces populations à affronter le dérèglement climatique, mais aussi à affronter la destruction de leur biodiversité. Et on se retrouve aujourd'hui à avoir des populations qui doivent payer une dette, alors que toutes les entreprises et les gouvernements du Nord continuent à les piller. Donc en fait, c'est l'intérêt de ce contre-sommet, c'est de valoriser constamment le fait que les populations du Nord doivent exiger de leur gouvernement et de leur structure internationale que cette dette cesse d'être payée par le Sud, et en solidarité avec les populations du Sud qui, elles aussi, doivent réclamer sur place. Et on en arrive à cette solidarité entre les peuples du Nord et du Sud contre les gouvernements et les multinationales du Nord et les institutions financières internationales. Et c'est comme ça qu'on va en arriver à dette pour le climat qui est dans cette logique-là, le mouvement dette pour le climat qui est dans cette logique-là.
J'ai encore un point à ajouter par rapport à dette pour le climat, ce mouvement-là. En termes de mobilisation, je pense que ce qui est important, c'est que là, nous avons pas mal parlé de nous-mêmes, CADTM, ATTAC, etc., des ONG, mais ce qu'est en train de faire particulièrement d'être pour le climat, c'est beaucoup mobiliser des syndicats à participer à ce contre-sommet-là, mais aussi à se joindre plus largement à la mobilisation, c'est-à-dire de faire converger. Et c'est un vieux enjeu, en quelque sorte, le mouvement climat et le mouvement syndical. Et du coup, là aussi, ce contre-sommet sera un moment important si nous arrivons à vraiment faire venir beaucoup de syndicats, à faire en sorte que l'annulation de la dette soit dans leur position. Et aussi dans leur priorité de mobilisation, un peu ici en Europe, mais surtout au sud global.
Myriam Makeba, Mama Africa, Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Nelson Mandela. La lutta continua, lutta, lutta, la lutta continua. Oh, lutta continua. My people, open your eyes. And answer the call of the drum. Frelimo, Frelimo, Samora Machel, Samora Machel, Eskom. Maputo, Maputo, among the brave, our nation will soon be as one. Frelimo, 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 Samora Machel. Samora Machel,
Shell,
as one. Mozambique,
Aluta,
Aluta continua, Aluta continua, continua. Mozambique, Aluta continua, Aluta continua, continua. Pom 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 pom.
Oh, Frelimo, Frelimo. Mama Africa,
my people, my people.
Wesh mon frère, there you are.
My brothers and sisters,
wesh mon frère.
Le précédent porte-parole d'Attaque 44, Guillaume, avant nos deux
porte-paroles actuelles Juliette et Manon, est partie en voyage d'études en ce début d'année 2023. Ce qui tombe bien, car il va pouvoir nous parler du Chili. Le Chili qui, depuis quelques années, connaît une forte contestation de la gauche, qui a réclamé une assemblée constituante. Enfin, il y en a eu deux, en fait. L'objectif avec ces constituantes étant de modifier la constitution pour donner plus de droits sociaux aux nombreux Chiliens qui ont des conditions de vie très difficiles.
J'ai été au Chili pour étudier le contexte politique actuel, où il y a un processus constituant qui est lancé. Nous sommes maintenant au second processus constituant suite à l'échec du premier. Mmh. Un processus constituant qui a émergé en octobre 2019, le gouvernement de Sébastien Piñera, qui est alors l'un des hommes les plus riches du Chili, qui est président pour son second mandat, augmente le ticket de métro à Santiago. Cette augmentation de quelques pesos va être l'étincelle qui va faire exploser la société chilienne, au sens que les étudiants vont se mobiliser de manière massive pour bloquer les métros, pour manifester devant les métros. S'ensuit différentes mobilisations durant les jours à venir, avec un état d'urgence qui est déclaré, les militaires qui retournent dans la rue de manifestation durant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avec différentes revendications autour de la santé, autour de l'éducation, autour de l'habitation. On a aussi beaucoup de mobilisations féministes qui émergent durant les stadios sociaux. Il y a au mois de décembre 2022 une grande manifestation avec plus d'un million de Chiliens, Chiliennes qui sont dans la rue en lien avec les causes féministes. La question des retraites aussi ultra importante au Chili, puisqu'on a une retraite par capitalisation ou un système privé où au final les Chiliens travaillent toute leur vie avec souvent peu de moyens pour subsister une fois la retraite arrivée. On a aussi de la dénonciation d'une élite politique corrompue. Il y a eu beaucoup de scandales de corruption au Chili qui ont donné ce sentiment de ras-le-bol. Et un gouvernement d'alors, du coup celui de Sébastien Piñera, qui continue une politique néolibérale, dans la continuité d'ailleurs, des 30 ans de ce qu'on a appelé la Concertación, puisque après, en 1990, quand la démocratie revient au Chili, on a une coalition de centre-gauche, centre-droit, qui va garder le pouvoir durant 30 ans. En alternant avec des nuances, mais globalement, c'est une alternance centre-gauche, centre-droit qui va diriger le pays durant 30 ans. Ça s'appelle du coup la Concertación. Et cette Concertación va continuer, ne va pas mettre en place de rupture radicale par rapport à l'ordre économique qui a été mis en place durant la dictature de Pinochet. En novembre 2019, après un mois de très forte mobilisation quotidienne dans la rue, où l'ordre public n'est plus maintenu, avec de nombreux affrontements entre policiers et manifestants, la majorité des partis politiques chiliens signent un accord pour la paix et pour la nouvelle constitution. Cet accord vise donc à mettre en place un processus constituant afin de remplacer la constitution actuelle qui est héritée du régime de Pinochet. La constitution actuelle au Chili date de 1980, du coup qui a été créée sous la dictature civile militaire et a été réformée en 2005, mais contient encore de nombreux aspects qui sont hérités de cette dictature civile militaire. Le 25 octobre 2020, un référendum est alors organisé pour savoir si les Chiliens veulent ou non changer de constitution. Malgré une participation faible, puisque seulement 50% des Chiliens se rendent aux urnes, parmi ceux qui votent, 79% votent pour un changement de constitution et en plus via une assemblée constituante. Par la suite, en mai 2021, une assemblée constituante va être élue et celle-ci est majoritairement remportée par la gauche et les indépendantistes, en sachant que les indépendantistes étaient majoritairement de centre-gauche. Il y a aussi dans cette première assemblée constituante une place importante réservée au peuple originaire. On a une présidente de cette première assemblée constituante qui est une femme issue des peuples originaires. Donc on a vraiment un contexte très fort où la gauche reprend une place importante dans le jeu politique chilien. S'ensuit un an de travail constitutionnel dans lequel il y a différents moyens pour la population de pouvoir s'impliquer dans ce processus. Donc on a aussi une vraie expérience de démocratie participative qui a lieu au Chili durant ces un an. Début juillet 2022, la première assemblée constituante rend donc au président de la République, Gabriel Boric, nouvellement élu, un président de gauche, cette première proposition constitutionnelle. Une proposition constitutionnelle radicale, au sens qu'elle va rompre avec le système économique non libéral en donnant plus de pouvoir à l'État pour intervenir dans l'économie, accroître la décentralisation, inclure de nombreux droits sociaux, notamment via un système de sécurité sociale, un système de santé publique renforcé, une éducation publique gratuite, le droit à l'eau comme bien commun d'accès libre, la reconnaissance de la crise climatique et la nécessité pour l'État d'agir en conséquence, pour ne prendre que quelques exemples. Le 4 septembre 2022, jour du référendum au vote obligatoire dont la participation fut de 85%, la proposition de nouvelle constitution est rejetée par 62% des votants. L'extrême droite retrouve une force qu'elle n'avait plus durant les 30 dernières années, alors que la gauche avait le pouvoir de transformer la société chilienne grâce au premier processus constituant, où elle était majoritaire. Elle se retrouve aujourd'hui en minorité dans le second processus constituant. Les mois à venir permettront de savoir si l'extrême droite chilienne et la droite chilienne qui l'accompagne vont pouvoir renverser la table en leur faveur, ou si la gauche réussit à retrouver un rapport de force favorable pour empêcher le pire et peut-être transformer la société pour du meilleur.
Mozambique, a continua, a luta continua, continua. In Zimbabwe, a luta continua, a luta continua, continua. In Botswana, a luta continua, a luta continua, continua. In Zambia, a luta continua, continua. In Namibia, a luta continua, continua. In Angola, a luta continua, continua. In South Africa, bandera, a luta continua, continua. Lotta continua, continua. Aluta continua, continua.
My people, my people, open your eyes. My people, my people.
Voilà, nous sommes arrivés au terme de l'émission. Je remercie toutes et tous pour la gentillesse et la disponibilité dont ils et elles ont fait preuve. Et n'oublions pas, la lutte continue. Et dans cette continuité, la prochaine émission, Autre monde, autres ondes, sera consacrée à l'eau. Un enjeu fort pour l'avenir et pour l'humanité.
De ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde.
Autre monde, autre monde, autre zone. Un écho des luttes à retrouver tous les deux mois sur Jet FM.
On n'avait pas la CBA papa, SDF chômeur ouvrier, paysan immigré.
Une émission proposée par Attaque 44 pour mieux comprendre les luttes du local à l'international.
C'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer, mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien.
Autre monde,
autre monde, autre zone.